France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour l'Infrapa, bonjour François Rivière. Alors, je sais pas vous, moi j'ai découvert Frankenstein à l'adolescence. Non, sur base d'un malentendu, je crois bien. À l'époque, je ne lisais que de la SF et des romans d'horreur, et dans les deux genres, Frankenstein, c'était le passage obligé. Je m'attendais à trouver un monstre et le mythe de l'hubris scientifique. J'ai trouvé en fait une créature sensible et une galerie de personnages, tous condamnés à la solitude.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un livre culte aujourd'hui dans votre book club, un mythe littéraire, une autrice de génie, Frankenstein de Mary Shelley, paraît dans la collection Bouquins avec d'autres textes de terreur et d'anticipation. C'est l'occasion pour nous d'évoquer ce livre rédigé entre 1816 et 1817 et publié pour la première fois en 1818 de manière anonyme en Angleterre. Mauvaise météo, demi-sommeil, histoire de fantômes, savants et monstres vulnérables, pulsions inconscientes, puissance de l'imaginaire, enfants morts, on vous raconte tout de la genèse de l'œuvre et de ses grandes lignes thématiques avec deux spécialistes, Hélène Frappa et François Rivière. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouverons Nicole Vulser qui éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Aujourd'hui, Festival de Cannes oblige, elle nous parle du trajet qui mène des livres au grand écran, histoire de cession de droits de producteurs et d'adaptation. Et enfin, on jouera au grand jeu des pages musicales à chercher de la musique dans les livres. On est ensemble pour une heure, même pas peur. On va voir. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. On va donc parler de Mary Shelley et de Frankenstein dans la traduction de Joe Servos pour l'édition Bouquin, mais notons que paraîtra en septembre prochain une nouvelle traduction de ce texte, Frankenstein de Mary Shelley, signée Marie Dariosek, et ce sera aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Bonjour Hélène Frappa.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, autrice, essayiste, romancière et bien d'autres choses. Vous avez signé une fiction radiophonique pour France Culture consacrée à la figure et à l'œuvre de Mary Shelley. C'est une fiction qui peut se réécouter sur le site franceculture.fr. Et plus récemment, mais pas encore diffusé, une série de fiction, 10 épisodes de 30 minutes. Et cette fois-ci, c'était une adaptation du Dernier Homme de Mary Shelley. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et comme je parle de septembre, je peux déjà dire qu'on a le plaisir de savoir que vous allez publier un nouveau livre à la rentrée littéraire. On sera ravis.
Avec un monstre dedans.
Avec un monstre dedans.
Mon stress.
Mais ne dites rien. Ne dites rien. Bonjour François Rivière.
Bonjour.
Vous êtes romancier, critique, éditeur, vous signez la préface et la présentation de cette édition des textes de Mary Shelley aux éditions Bouquins. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer Frankenstein de Mary Shelley. Hélène Frappa, est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec l'œuvre de Mary Shelley en général? Et si c'est par Frankenstein que ça commence, à quel moment dans votre parcours?
Je m'en souviens pas, c'est-à-dire c'est flou, je me souviens que c'était par le cinéma, et puis qu'il a fallu des années, des décennies même pour que l'image floue se précise. Elle s'est précisée grâce à une sorte d'étincelle télépathique quand Blandine Masson, l'ancienne directrice des fictions de France Culture, m'a commandé un texte et que je me suis vraiment plongée dans l'œuvre de Mary Shelley et que j'ai éprouvé une des nombreuses hontes de mon existence, qui est la honte d'une... Par exemple, d'une femme écrivaine, de découvrir une femme écrivaine de génie et de se rendre compte qu'elle était là depuis toujours, enfin depuis longtemps, et qu'elle était invisible, en quelque sorte.
Parce que presque recouverte par ce Frankenstein, ce mot Frankenstein sur lequel on va revenir, Blandine fait appel à vous par quelle intuition? Pourquoi est-ce qu'elle se dit Hélène Frappa, Mary Shelley, ça marche?
Je sais pas. C'est vraiment, comme dirait Byron, et c'est ça qui a lancé Mary Shelley, l'heure de la sorcellerie a sonné. Il y avait un autre sorcier derrière qui était François Angelier, qui avait aussi vu, comme ça, perçu. Voilà, autre grande sorcière, hein, des intuitions. Avait eu cette intuition télépathique peut-être d'une connexion. Mais c'est vrai que ça s'est avéré dans l'écriture ensuite. Une rencontre, pour moi, a été une rencontre, une des plus grandes rencontres de ma vie littéraire et pas seulement la rencontre avec Mary Shelley.
Est-ce que vous sauriez dire, même si c'est un peu grand de vous demander ça en quelques mots, qu'est-ce qui dans Mary Shelley et dans Frankenstein fait tellement sens ou fait tellement signe pour vous, pour votre pensée, pour votre parcours de femme et d'autrice?
Alors moi, j'en ai fait une sorte de théorie, enfin que j'ai mis du temps à formuler, mais je dirais que pour moi, c'est la première écrivaine de l'histoire de la littérature. Alors non pas qu'il n'y ait pas eu d'autres femmes écrivaines, écrivains, c'est un néologisme, qui avaient publié des livres, même si elles étaient assez rares, ou en tout cas assez rarement visibles, mais c'est la première qui s'accouche elle-même comme cette monstruosité sociale qu'est une femme écrivaine. Et à travers ce monstre dont elle accouche, il y a aussi ce monstre-là, cette monstresse-là, qui est la femme écrivaine. Ça, j'ai mis un certain temps à le percevoir. Et je pense que son coup de génie, il est là aussi. Et c'est pour ça qu'il y a un avant et un après. Et c'est pour ça que c'est elle qui doit nous parler maintenant. Ça doit être, je pense, elle est le début de notre modernité de ce point de vue-là.
On y viendra dans un instant avec la préface de 1831 où elle dit « Laissez-moi enfanter mon monstre, laissez-moi enfanter mon œuvre » parce que dans un premier temps, je le disais, en 1818, elle publie anonymement ce texte Frankenstein. Qu'est-ce qu'il en est de votre rencontre, François Rivière, avec Mary Shelley et Frankenstein ?
Moi, j'ai lu le roman de Mary Shelley quand il a été publié dans une collection populaire, en fait, la collection Marabout, qui commençait à publier beaucoup de romans fantastiques ou assimilés au fantastique ou au gothique. Je m'en rendais pas compte à l'époque, c'était pas un roman gothique, en fait, c'était un roman romantique, c'était même très romantique. Et j'ai vu aussi à la même époque le film de James Whale, qui m'a plu pour, j'allais dire, d'autres raisons, parce que finalement, on n'était plus trop, non, même si James Whale utilisait cette fiction qui est quand même une fiction tout à fait étonnante. Je crois que Mary Shelley peut être considérée non seulement comme une grande écrivaine, mais comme une pionnière de la science-fiction, qui est quand même un genre qui a fleuri à partir de la fin du 19e siècle et qui n'a pas cessé d'exister, d'être enrichi. Pour moi, c'est une femme tout à fait originale. Enfin,
Et alors, qu'est-ce qui vous attrape dans ce texte Frankenstein ? Qu'est-ce qui vous plaît ?
Moi, ce qui m'a plu, c'est de lire un roman par lettres, un peu comme Dracula que j'ai lu juste après, qui entraîne vraiment le lecteur dans une aventure absolument extraordinaire. Enfin, ça ne ressemble à rien d'autre. Même si on le lit maintenant, si on le découvre aujourd'hui, et je sais que des gens qui m'entourent l'ont découvert récemment, curieusement, on est pris par une histoire dont on sent bien qu'elle vient de très loin quand même, et qui donne envie de s'intéresser à la biographie de l'auteur. Parce que Mary Shelley, c'est pas n'importe qui, c'est la fille de Mary Wollstonecraft. Je vais dire recensée comme une des premières féministes de l'histoire, c'est la fille aussi d'un personnage, William Godwin, qui était à la fois romancier, qui était romancier gothique d'ailleurs, et un homme qui a un peu défrayé la chronique tellement il était imbibé par les idées de la Révolution française. Le père et la mère de Mary Shelley ont vécu, et la mère de Mary d'ailleurs, elle a vécu à Paris la Révolution. Ont vécu vraiment dans une époque de changement énorme. Et ce qui est finalement très beau dans le roman de Mary Shelley, c'est ces idées absolument terrifiantes d'une certaine manière sur le plan social qu'apportait la Révolution française se sont converties en un cauchemar absolument fabuleux, extrêmement créatif et qui résonne toujours autant.
À partir de quand vous vous êtes intéressé à la genèse de ce texte ? Vous parlez de la biographie, mais en effet, il y a un contexte de création, un contexte d'écriture qui est presque aussi fascinant que le texte lui-même. Vous y êtes allé voir à quel moment, François Rivière ?
C'est une légende, en fait. C'est une légende que le cinéma, d'ailleurs, il existe un film de Ken Russell qui s'intitule Gothique, qui raconte ça, bon, de manière un petit peu légère, mais la rencontre, enfin, l'espèce de réunion au sommet sur les bords du lac de Genève entre Byron, qui est un personnage quand même un des personnages les plus fascinants de l'époque, hein, le mari de Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, qui est un immense poète romantique, Mary qui est là parce qu'elle est amoureuse, elle est follement amoureuse de son mari, hein, un jeune médecin, le docteur Polidori, et Byron qui décide qu'ils vont tous écrire une histoire fantastique, enfin une histoire de fantôme ou une histoire de vampire, lui-même ayant déjà imaginé une histoire de vampire. C'est une espèce de creuset dans lequel va surgir le cauchemar de Frankenstein. Et donc ça, c'est littérairement, c'est très beau, en fait, et pas seulement. La preuve, on en a fait des films, parce que ça a été utilisé maintes fois, et dans la fiction également. La science-fiction a réutilisé beaucoup, sous forme de schémas, un peu comme ça, c'est la naissance de Frankenstein, la naissance du monstre.
La naissance même du texte dans la tête de Mary Shelley, dans cette assemblée un peu particulière. Donc, on pose le décor, Hélène Frappa, on est au bord du lac, ces êtres sont réunis, il ne fait pas beau, et quelqu'un fait comme une sorte de lancement de jeu d'écriture, on pourrait dire ça ?
Oui, c'est l'été le plus pluvieux de l'histoire de Genève. Apparemment, on est dans la villa Diodati, au bord du lac. Il ne cesse de pleuvoir, de pleuvoir, de pleuvoir. Le lac est invisible à travers ses trompes d'eau. Tout le monde commence à s'ennuyer. Et Byron, qui est, moi, je dirais, la première rockstar, en fait, de l'histoire, est là et il a cette intuition. Alors, c'est une période assez particulière, c'est-à-dire, on pourrait dire un moment, une sorte de fenêtre, un peu de libération. Alors, certes, de libération érotique, érotico-artistique, certes dans la haute société, pas seulement la mère de Marie Shelley, elle est issue plutôt de la toute petite bourgeoisie, elle a eu une vie extrêmement libre. Alors la liberté, c'est un mot abstrait, hein. On pourrait dire l'émancipation, c'est un mot beaucoup plus concret. L'émancipation, les femmes, elles le payent par leur corps. C'est-à-dire cette histoire de l'émancipation, cette courte fenêtre, c'est une histoire de fausse couche, c'est une histoire d'avortement, c'est une histoire d'enfant mort, ça va être celle de, c'est une histoire de femme qui meurt en couche. Toute cette histoire-là qui fait d'elle la première écrivaine, qui fait, je le dis dans un sens genré, mais au sens organique, au sens du corps.
Au sens où il y a quelque chose qui est très lié pour vous, on l'entend, et même d'ailleurs depuis le début, entre la production de cette œuvre-là, et d'ailleurs on y viendra aussi sur toutes les lignes thématiques qu'on va trouver dans le texte littéraire lui-même, et le corps enfantant, le corps qui tombe enceinte, avant ça, le corps qui fait l'amour, avec qui elle décide de faire l'amour, et le corps qui souffre, et éventuellement le corps qui meurt. Il y a vraiment quelque chose qui est une sorte de continuum, en fait.
Exactement. C'est un flux, pour le coup. La mère de Mary Wollstonecraft, dont je n'avais jamais entendu parler durant mes études.
Ça, c'est la mère de Marie Shelley.
La mère de Marie Shelley, pardon. Mary Wollstonecraft, dont je n'avais jamais entendu parler durant mes études de philosophie, alors qu'elle écrit ce premier texte magnifique, un texte absolument philosophique, de dialogue notamment avec Rousseau, un texte qui propose l'émancipation donc
la défense des droits des femmes.
La défense des droits des femmes, premier texte de ce point de vue-là, qui va être repris d'ailleurs par d'autres philosophes. Elle est morte en couche, c'est-à-dire après avoir donné naissance à la petite Marie. Au bout de 11 jours, elle meurt d'une septicémie, donc un placenta, qui s'infecte. Et quand elle est très jeune, arrive dans cette villa Diodati à Genève, elle-même vient de perdre son premier enfant qu'elle a eu avec Percy Shelley, la petite Clara qui est morte à 11 jours. Donc déjà, cette question, cette tragédie, littéralement, c'est-à-dire ce retour comme ça d'une sorte d'horloge qui revient, cette même temporalité, ces 11 jours de mort de la mère, de mort de l'enfant, etc., sont là inscrits dans son corps. Et donc quand Byron dit avec cette intuition que...
Jouons à écrire des histoires de fantômes.
Voilà, des histoires de peur, des histoires qui font peur. Et qu'elle dit, et moi ça me rappelle ce que raconte Nathalie Sarraute dans Enfance, quand son institutrice lui dit racontez votre pire souvenir d'enfance, et que Nathalie Sarraute n'a que des pires souvenirs d'enfance. Elle dit, c'était un sujet en or. Elle a la meilleure note. Là, les histoires de peur pour cette petite jeune fille marquée déjà.
Il n'y a que ça.
Voilà, il n'y a que ça, sans compter les suicides. Il y aura aussi des retours de suicides. La fille de Shelley, la femme de Shelley, etc. La première femme de Shelley. Bref. Byron a cette intuition, il dit « l'heure de la sorcellerie a sonné ». Chacun monte dans sa chambre et là, en proie à une sorte de terreur. Et dans cet état, pour reciter à nouveau Nathalie Sarraute, et je pense qu'il y a une vraie connexion entre ces deux immenses écrivaines, entre la vie et la mort. Dans cet état entre la vie et la mort, c'est le titre d'un texte magnifique de Nathalie Sarraute.
Le songe et l'éveil, la vie et la mort.
Voilà, elle va écrire, elle va produire ce qui est la matière même, le corps même de la littérature, c'est-à-dire un texte qui va ranimer les morts. Avec des bouts de mort, elle va faire des phrases, donc ce qui est peut-être le plus vivant pour un être humain, le langage. Et c'est comme ça que va naître ce texte, en une nuit fiévreuse.
Elle le raconte dans cette préface de 1831, dont on écoute un extrait.
Lorsque je posais ma tête sur l'oreiller, mon imagination se débridant prit possession de mon être et me guida, dotant chacune des images qui surgissaient l'une après l'autre dans mon esprit d'une vivacité dépassant les limites ordinaires de la rêverie. Je vis alors, les yeux clos, mais avec une parfaite vision mentale, je vis l'étudiant au pâle visage versé dans la pratique des arts sacrilèges, agenouillé auprès de la chose qu'il venait d'assembler. Je vis la hideuse chimère d'un homme allongé qui, sous l'action d'une puissante machinerie, montra des signes de vie et commença à se mouvoir de façon maladroite, comme à demi-vivant.
Texte de Mary Shelley, cette préface où elle parle de l'apparition, de la vision. Quand on sait qu'elle a accouché d'un premier enfant prématuré, cette petite Clara qui finit par mourir, et qu'elle parle de cet être à demi vivant, et c'est vraiment un motif qu'on va retrouver ensuite, d'un espèce de, même le monstre et la créature dont Frankenstein passe son temps comme ça. On a presque l'impression de voir un nouveau-né qui découvre son environnement. Pourquoi c'est intéressant cette récurrence du vocabulaire de la vision, François Rivère, dans cette préface? Je vis, quelque chose apparaît, une image.
Elle a fait un cauchemar. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait, ce cauchemar? Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'au fond, elle a un petit peu repris en... Elle avait envie d'écrire une fiction. Ce qui est absolument fascinant, c'est de se dire qu'au milieu de ces quatre hommes réunis avec elle à la Villa Diodati à côté de Genève, c'est une femme qui a mis au monde l'histoire de terreur.
C'est elle qui prend le plus le jeu au sérieux, finalement, qui le mène le plus à bout.
Que Lord Byron appelait de ses voeux, si je puis dire. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce qu'effectivement, elle avait perdu un premier enfant. Elle a perdu trois enfants. Elle a quand même, en tant que mère, ça a été quand même quelque chose de terrifiant. Enfin, je sais pas.
Mais sur cette histoire de la vision, alors, pourquoi est-ce que...
La vision, elle l'a eu parce qu'elle se rappelait peut-être aussi des choses. Elle avait des souvenirs de, notamment de la fréquentation d'un médecin, d'un galvaniste, enfin d'un personnage, d'un médecin qui, ami de son père, qui faisait des expériences d'électricité sur des cadavres. Enfin, tout ça n'est pas venu de nulle part. Non, moi, ce qui me fascine, je vous dis, c'est le fait que ce soit elle qui soit mise au travail pour créer cette créature qui est la créature de fiction peut-être la plus extraordinaire de toutes. Et donc, elle l'a vue, parce qu'effectivement, elle a fait ce cauchemar. Bon, moi, j'ai un peu de mal à le croire, en fait. J'ai l'impression que c'est déjà une œuvre de fiction, enfin, le cauchemar.
Le récit de la jeunesse participe presque du roman de Frankenstein.
Et qu'elle était dans une ambiance, en fait, qui appelait peut-être aussi ce genre de vision qu'elle a eue, qu'elle a développé aussi peut-être en collaboration avec son mari. Il faut pas douter complètement de l'inaction, enfin, ou l'inactivité de Percy Shelley, qui est quand même, quand on lit la poésie de Shelley, qui est absolument fabuleuse, hein, qui est fascinante. Shelley qui avait sur le plan créatif, qui était quand même allait beaucoup plus loin, plus haut que Mary, qui est romancière, par moments un peu laborieuse quand même, hein, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sûrement. Et je pense que, sans parler de collaboration réellement, Percy a eu une influence sur l'écriture du roman.
Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était que dans cette préface, elle parle elle-même d'images et de visions, et que vous avez tous les deux évoqué le cinéma, et qu'il n'est pas rien que le cinéma ait fait tant de cas de cette créature monstrueuse qui naît comme ça du savant. Pourquoi est-ce qu'on peut presque dire que c'était presque une destination, Hélène Frappa, le texte de Shelley, vers le cinéma, vers l'image?
Alors déjà, je dirais, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que ce soit une femme parmi quatre hommes qui inventent, qui accouchent de Frankenstein, c'est-à-dire de ce récit de terreur, pour la bonne raison, et je pense que je ne vous apprendrai rien, c'est que les femmes en connaissent un rayon sur la question de la peur et de la terreur, et sans doute elles en ont à remontrer de ce point de vue-là aux hommes. Donc là, il n'y a vraiment pas à s'étonner. Après, si on reprend un terme que vous employez dans votre préface, François Rivière, qui est le terme d'hystérique, alors je vais le prendre au sérieux, une fois n'est pas coutume, et je dirais, sans entrer dans la généalogie que j'ai déjà faite de ce terme, c'est l'œil de l'utérus, on pourrait dire. C'est un œil utérin, disons. Il y a quelque chose... Moi, je prends... C'est pas que je crois ou je ne crois pas à son cauchemar. Je le vis comme lecteur, comme lectrice. Elle nous fait voir avec elle. On pourrait dire... Moi, je pourrais dire vraiment au premier degré qu'elle invente le cinéma à ce moment-là,
oui,
dans
c'est
cette
ça.
Scène.
Même, et voilà. Je trouve que cette... elle est presque... Il y a presque une sorte de projecteur, quoi, quand elle le décrit dans ce texte de 1831.
C'est une engendreuse. Elle ne cesse de... Elle invente, en effet, le roman fantastique avec Frankenstein. Elle va inventer le roman post-apocalyptique avec Le Dernier Homme. Dans Mathilda, elle va engendrer un des plus grand roman sur l'inceste, qui a été peu d'ailleurs aperçu comme tel. Bon, et probablement qu'elle invente aussi le cinéma, c'est-à-dire qu'elle s'invente, elle fait de... Alors l'œil de la vision, historiquement, c'est l'œil de l'esprit, c'est l'œil de la pensée. C'est cet œil de la pensée qu'on peut trouver d'une certaine manière aussi dans l'œuvre magnifique hein, de Shelley, son mari, que moi j'associerais pas. Enfin, il faut les associer évidemment, amoureusement.
Mais pas d'un point de vue littéraire, en
tout
cas.
Non. Alors c'est vrai que le premier éditeur à qui elle montre son texte, ça se fait en deux temps. Elle apporte Frankenstein au tout début. Un éditeur anglais lui dit, alors là on a vraiment un merveilleux gaslighting, il lui dit petit 1, vous ne pouvez pas l'avoir écrit, car vous êtes une femme. Petit 2, donc une femme ne peut pas l'avoir écrit. Petit 2, si vous êtes une femme, du coup je ne vais pas pouvoir le publier. Petit 3, c'est votre mari qui l'a écrit. C'est QFD. Quand en effet elle écrit, elle finit par le publier sous son nom, et la question du nom, je pense qu'on va y revenir, elle est cruciale. Parce que comme un roman de l'époque, le roman de Wilkie Collins, magnifique roman qui s'appelle No Name, un premier roman peut-être, policier, qui tourne autour de la question du manque d'identité des femmes, l'écrit. Effectivement, les femmes, elles sont du côté du sans-nom. Hein. Et être une femme qui a perdu un enfant, c'est être aussi sans nom, car il n'y a pas de mots qui disent que c'est... on connaît le mot pour l'orphelin, on connaît le mot pour la veuve, mais comment nommer cette créature monstrueuse qui porte son deuil qu'elle qualifie toujours, et c'est intéressant ce que vous disiez sur la chose, dans son journal de deuil, hein, journal qu'elle n'a cessé d'écrire, hein, et notamment elle y consacre des pages extraordinaires ensuite à la mort de Shelley, elle parle de cette petite Clara qui est morte à 11 jours,
la
et elle l'appelle voilà, it. It, la chose. Exactement comme dans le texte original de Frankenstein, la créature sera nommée it, cette chose qui n'est pas genrée, qui est avant même d'être peut-être un être humain, une créature, etc. Donc tout ça participe de cette vision, mais qui est cette vision qu'elle a aussi par le corps, qu'elle a par ce ventre orphelin, qu'elle a par cet utérus ensanglanté, qu'elle a... c'est ça, de ce point de vue-là, je dirais.
Il y a quelque chose, peut-être, puisque vous parlez du nom ou des mots, Hélène Frappa, et que vous parlez aussi de gaslighting, cette notion à laquelle vous avez consacré un livre, et d'effacement, comment expliquer que ce mot Frankenstein a tant remplacé les mots Mary Shelley? Comment expliquer qu'il y ait comme une sorte de bloc Frankenstein par-dessus le nom de l'autrice et qui mène aussi à une mauvaise interprétation? Souvent, on a l'impression que Frankenstein, c'est la créature, alors que Frankenstein, c'est Victor, c'est le savant, c'est le créateur. Comment expliquer ce mélange de mots qui mène à des mauvaises interprétations?
Je pense vraiment que là, c'est une question genrée, hein, c'est-à-dire que cette créature est sans nom, comme la petite Marie est sans nom, comme elle est encore sans nom dans les études littéraires, elle n'est pas encore reconnue à sa juste valeur, Marie Shelley, en tant que grande écrivaine, hein, y compris en Angleterre, dans les études, je veux dire académiques, elle n'est pas tellement enseignée en tant que grande écrivaine. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que c'est le syndrome Rebecca, je dirais, hein, c'est-à-dire se souvenir du prénom de quelqu'un qui n'est pas celle qui est la narratrice. La narratrice du roman Rebecca de Daphné du Maurier étant sans nom elle-même. C'est ce syndrome-là, en quelque sorte, dont hérite, c'est après Marie. Rebecca hérite, disons, du syndrome Frankenstein.
Marie Shelley et Frankenstein. Voilà. On va continuer à parler de ce roman Frankenstein de Marie Shelley juste après cette chanson qui emporte le titre. Elle est écrite et interprétée par l'artiste Anony, femme trans, qui, devenue femme, peut dans cette chanson comme bercer le petit garçon qu'elle avait été. Quand j'étais un petit garçon, chante Anony. Maman disait « Fais attention à la chute, mais maintenant que je suis une femme, je sais, je sais, je sais, je peux voir le froid, je peux voir le froid jusqu'à l'endroit où il est né. »
When I was a young boy, Mama said you better watch out for the fall. But now that I'm a grown woman, I know I can see the cold, I can see the cold to place where he's born. Come on, baby, let's fall into chasm. Oh, when we fall into love.
will never shatter. For as long as I hold on to you in these cold hours.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un livre culte dans votre Book Club de France Culture aujourd'hui, le roman Frankenstein que Marie Shelley publie pour la première fois en 1818, on l'a entendu d'un point... de manière anonyme, pardon, et dans une seconde version en 1831. On a évoqué la figure de l'autrice, son parcours, la genèse si particulière de cette œuvre. Entrons maintenant dans le texte et parlons de sa structure. Le roman s'ouvre par quatre lettres. François Rivière, vous avez parlé d'un roman par lettre, d'un roman en lettres. Que disent ces lettres? Qu'est-ce qu'elles nous permettent comme entrée dans ce roman de Marie Shelley?
Ces lettres nous permettent d'entrer d'abord dans le personnage de Victor Frankenstein, qui est un jeune savant genevois qui est un pur héros romantique, je trouve. Mary en fait un médecin, parce que justement c'est quelque chose qu'elle connaît un peu, enfin pas la médecine, mais son père fréquentait beaucoup de gens, notamment les médecins qui étaient souvent des gens qui expérimentaient les choses. Et donc elle en fait un héros romantique, et ce héros romantique va aller jusqu'au bout de la vision qu'elle a eue de ce personnage. Je reviens sur l'idée de la vision. Je pense que le cinéma n'existait pas du temps de Mary Shelley, mais la peinture, oui. Et un peintre qui s'appelait Fuseli, qui avait un ami de sa mère, peignait des toiles qui étaient terrifiantes, hein, notamment une qui est très célèbre. J'ai oublié le titre de cette toile, je crois que c'est le monstre.
Le vampire, non?
On voit un monstre assis sur le ventre d'une femme, elle-même couchée sur un sofa. C'est une peinture qui a pu hanter Mary Shelley autant qu'on peut l'imaginer. Bon, donc voilà, et je pense que
le cauchemar,
voilà. Oui, c'est une toile qui a été utilisée maintes fois, même je crois peut-être dans des... sur la couverture d'édition de Frankenstein, enfin peu importe.
Donc on rencontre ce personnage, Victor Frankenstein, on apprend à le connaître et on va vers ses propres expérimentations à lui, cet homme-là qui parle de son enfance, qui parle de son éducation. Et alors comment est-ce qu'il arrive, parce qu'on va écouter un deuxième extrait, cette fois-ci du texte de Frankenstein lui-même, et au moment où il va faire face à sa propre créature, mais qu'est-ce qui motive ce Victor Frankenstein à créer la créature, a créé le It's, le monstre.
Victor Frankenstein, c'est le Prométhée moderne, comme l'indique le sous-titre qu'il ne faut pas oublier quand même du roman. Donc c'est le titan qui va ravir le feu aux dieux et qui va créer l'homme, enfin qui va recréer l'homme. En fait, c'est la plus folle ambition de l'homme scientifique, en fait, pour l'époque et pour un personnage comme ce jeune médecin qui va créer à partir de la foudre et à partir de morceaux de cadavres qu'il a été chercher dans des cimetières, dans des charniers, qui va créer une créature humaine.
Et en même temps, l'ambition n'est pas que d'avoir la création divine entre ses mains, puisque ces quatre lettres-là, François Rivière, ne parlent que de solitude. C'est-à-dire que dans toutes ces lettres, il est question de ne pas trouver âme avec qui parler, de ne pas pouvoir partager ses tourments, de ne pas avoir amis ou personne avec qui traverser l'existence. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça, Hélène Frappa, dans ce désir de créer un être à partir de bouts de cadavres, quelque chose qui pourrait... pallier la solitude de Victor Frankenstein.
Il n'arrête pas de dire je suis seule, je sais pas avec qui traverser l'existence, je sais pas à qui parler.
Oui, c'est un art poétique aussi, c'est-à-dire il s'agit à travers de... Alors il y a la question de l'électricité, hein, puisqu'on a même dit que son nom, Frankenstein, venait peut-être aussi de Franklin Roosevelt. Roosevelt.
Le nom m'échappe, du coup.
Benjamin Franklin, pardon, merci. N'importe quoi. Donc, il y a les expériences électriques aussi. Que Lord Byron et Shelley aimaient bien faire aussi. Il y a, alors moi je pense à ce texte magnifique de Jules Michelet, La sorcière, où il parle de l'électricité féminine. Hein, à ce moment-là aussi, toute cette question de l'électricité. Il y a cette question du coup de foudre. Hein, je pense notamment au coup de foudre. La petite Marie qui déclare sa flamme littéralement à Percy Shelley alors qu'elle a 16 ans, je crois, sur la tombe de sa propre mère. Bon, donc tous ces morts et toutes ces flammes et toutes ces étincelles qui sont aussi c'est cette manière à partir de ce qui est inerte, c'est-à-dire des mots qui sont inertes, des morceaux de cadavres qui sont autant des mots, de faire phrase, de faire langage, des décennies plus tard, plus d'un siècle plus tard, Monique Wittig, dans son texte magnifique, Le Chantier littéraire, à propos de Nathalie Sarraute, appellera la physique même de la littérature, le corps même, c'est ça aussi dont il est question.
Donc ce Victor Frankenstein,
il est seul comme un écrivain aussi.
Ouais, il prend des bouts de cadavres, il prend tous ses fantômes, il prend tous les mots qui ne sont que des bouts inertes tant qu'on les a pas mis ensemble, et la créature, c'est le texte dont peut accoucher et Victor Frankenstein et Mary Shelley derrière Victor Frankenstein. Mais alors, il y a un étonnement, il y a un effroi, il y a une forme de ravissement dans le face-à-face qu'ont ensuite Victor Frankenstein et la créature. On écoute un extrait du texte.
Comment pourrais-je dire l'émotion que j'éprouvais devant cette catastrophe ? Ou trouver les mots pour décrire l'être repoussant que j'avais créé au prix de tant de soins et de tant d'efforts ? Ses membres étaient certes bien proportionnés, et je m'étais efforcée de conférer à ses traits une certaine beauté. De la beauté, grand Dieu ! Sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis sous-jacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse, ses dents d'une blancheur nacrée, mais cela ne faisait que mieux ressortir l'horreur des yeux vitreux, dont la couleur semblait se rapprocher de celle des orbites blafardes dans lesquelles ils étaient profondément enfoncés. Cela contrastait aussi avec la peau ratatinée du visage et de la bouche rectiligne, aux lèvres presque noires. Bien que multiples, les péripéties de l'existence sont moins variables que ne le sont les sentiments humains. Pendant 2 années, j'avais travaillé avec acharnement dans le seul but d'insuffler la vie à un organisme inanimé. Je m'étais pour cela privé de repos, et j'avais sérieusement compromis ma santé. Aucune modération n'était venue tempérer mon ardeur. Et pourtant, maintenant que mon œuvre était achevée, mon rêve se dépouillait de tout attrait, et un dégoût sans nom me soulevait le cœur. Ne pouvant supporter davantage la vue du monstre, je me précipitais hors du laboratoire. Réfugié dans ma chambre à coucher, je me mis à aller et venir, sans pouvoir me résoudre à chercher le sommeil. Mais mon tumulte intérieur finit tout de même par s'apaiser, vaincu par la lassitude. Je me jetai tout habillé sur le lit, dans l'espoir de trouver quelques moments d'oubli. Ce fut en vain. Je dormis bien un peu, mais en proie à des rêves terrifiants.
Un extrait de Frankenstein de Mary Shelley, juste après cette scène où Victor Frankenstein fait face à cette créature par laquelle il est pour le moins désarçonné. Il fait un cauchemar horrible dans lequel il embrasse une femme qui se révèle être sa mère. Il y a vraiment quelque chose de très oedipien, de très cauchemardesque dans le songe qu'il fait juste après cette scène-là. Que dire de ce face-à-face entre Victor et sa créature, François Rivière ?
Le rêve de Frankenstein, c'était de créer effectivement un homme, de faire ce que Dieu permet normalement de faire, et ce qu'un homme et une femme font, d'où peut-être le cauchemar qu'il fait en voyant sa mère, parce qu'il est à la fois le père et la mère de la créature, et en même temps, cette créature à laquelle il est confronté, lui pourrait lui inspirer le dégoût de la vie alors qu'il a voulu donner la vie, justement. Donc il y a une espèce de contradiction et quelque chose d'assez violent dans le rapport. Et là, je pense que Mary Shelley a quand même été presque prise au piège de sa propre création, au point qu'il a fallu, alors là c'est la fin du livre, hein, mais qu'elle le détruise à la fois la créature et le créateur.
Mmh. Tout le monde finit par mourir, il y a vraiment un retour. Tout à l'heure, vous parliez du retour du tragique, elle ne fera pas, mais on est saisi. Alors après, peut-être, je ne sais pas à quel point on rentre dans la complexité de l'intrigue, puisqu'il est question aussi d'enfants morts et d'enfants morts que l'on retrouve dans des rivières avec des médaillons. Qu'est-ce que vous inspire, elle ne fera pas, ce premier face-à-face entre Victor Frankenstein et cette créature qui n'est pas que monstrueuse et laide, aussi fascinante. Il est question de cheveux soyeux, il y a quelque chose, en tout cas, de désarçonnant pour le moins.
Alors, je viens d'avoir une idée que j'avais jamais eue, je dois dire merci
cool.
à cette émission.
Ah, ça, c'est vraiment ce qu'on aime.
Non, mais ça m'est apparu soudain, là, en écoutant la très belle lecture. J'avais jamais fait le lien qui m'est apparu avec une évidence entre le texte de Mary Wollstonecraft, sa déclaration.
Sa mère.
Voilà, la mère de Mary Shelley, la déclaration des droits des femmes, où elle consacre. Alors, Mary Wollstonecraft est une femme pourvue d'une intelligence et d'une ironie assez hors du commun, les deux évidemment étant liés. Et elle ne cesse de critiquer la beauté, en fait. La beauté qui est cette arnaque pour les femmes, que arnaque au même titre. Alors moi, je suis pas d'accord sur la question romantique et je trouve que ce texte-là, enfin la tradition romantique, je pense pas que Mary Shelley soit une écrivaine romantique. Je crois qu'elle est plutôt, elle attaque plutôt, elle corrode le romantisme de l'intérieur, même si le romantisme anglais n'a rien à voir, heureusement pour le romantisme anglais, avec le romantisme français. Mais là, ce qui est dingue quand on y pense, c'est que dans le texte de Mary Wollstonecraft, elle dit, il faut arrêter avec la joliesse, avec la beauté, avec le fait d'être des gentilles et belles et serviles, esclaves.
Et comme par hasard, Mary Shelley fait naître
une créature hideuse, mais et avec ce thème qui est quand même sidérant, de la laideur. On n'est pas vraiment dans une... Enfin, la question romantique, là, et si on pense à la poésie de Percy Shelley, pour le coup, on en est assez loin, à mon avis, et le dégoût. Le dégoût qui est, à mon avis, un thème... Alors, très contemporain, hein, au moment où je parle. Je veux dire, nous sommes... L'ère post-MeToo, c'est l'ère où, soudain, le sentiment de dégoût des créatures de genre féminin s'expriment face aux créatures de genre masculin, pour le dire clairement. Il y a quelque chose de ça aussi dans ce texte. C'est-à-dire que soudain font irruption, en effet, des catégories esthétiques, la laideur, qui n'entrait pas. Surtout, alors vous parlez de Dieu, mais enfin Dieu théoriquement n'est pas censé créer, enfin il n'est pas censé créer le golem, disons. Enfin surtout le Dieu des romantiques, évidemment. Et là, la créature est monstrueuse, elle est hideuse, elle n'a rien d'aimable, elle ne correspondra à rien de tous ces attendus de la créature. Et puis, elle inspire le dégoût, sachant que Mary Shelley, de ce point de vue-là, je trouve qu'elle est encore... Enfin, il y a quelque chose de très fort. Moi, ça me fait penser à Diderot, ce texte, c'est-à-dire la question de l'effet qui est produit par le texte sur son lecteur et par aussi la créature sur son créateur, elle est au premier plan, un peu comme dans les... C'est ce qui fait que Diderot a révolutionné, par exemple, la critique d'art, en mettant au cœur de ses critiques l'effet d'une œuvre d'art qu'il regarde dans les salons, sur lui-même, dans son corps. Il pleure, il a des humeurs, etc., etc.
Oui, d'ailleurs, il dit, Victor Frankenstein, dans le texte, dit « Je n'ai presque pas assez de mots pour dire ce que je ressens, enfin, par quoi je suis traversée en regardant ma propre créature. » Il est lui-même extraordinairement troublé par ce qu'il ressent devant sa créature. Mais en même temps, Hélène Frappa, vous dites « Cette créature qui ne répond à rien de ce que l'on pouvait attendre d'elle ou de lui, puisque c'est comme ça ce hit non genré. Mais c'est encore plus étonnant au chapitre 11 de l'entendre prendre la parole et de révéler son intériorité qui là n'a plus rien de monstrueux, en tout cas d'effrayant, mais qui n'est presque qu'attendrissante. Il est très seul, cette créature est très seule, très perdue, très décontenancée par le monde des humains, dont on peut quand même rappeler, François Rivière, que il l'épie par un petit trou. Il essaye, cette créature qui n'est dotée d'aucun savoir au départ, d'aucune possibilité de traduire le monde, de lire le monde, essaye de piger quelque chose en regardant les humains par un petit trou. Il y a quelque chose de très bouleversant quand on entend enfin la voix de la créature.
Oui, en fait, je crois qu'il va avoir tous les défauts de la race humaine. Hein. Malheureusement, pour lui, on sent qu'il est... Il est menacé d'extinction très rapidement. Mais moi, je veux revenir quand même sur l'idée du romantisme, parce que si Victor Frankenstein n'est pas un héros romantique, là, je comprends plus. Enfin, pour moi, c'est parfait. Et la créature, justement, il y a une espèce d'opposition entre ce qu'est le personnage, la manière dont le personnage a été construit et montré, mis en avant par...
Vous parlez de Victor ?
La manière dont il s'exprime, là, je parle de Victor, oui. Mmh. Par Mary Shelley, et cette créature qui est le symbole de tout ce qui est détestable, en fait, finalement, de tout ce qui est détestable. Une fois qu'on a créé un monstre et qu'il va falloir s'en débarrasser,
et alors, qu'est-ce qu'il y a
elle nous montre, et ça va devenir un assassin quand même. Ouais. Il va quand même tuer la fiancée de Frankenstein. Hein, donc, nous voilà, donc je sais pas, moi, pour moi, le personnage, lui n'est plus romantique. Enfin, elle est dans une opposition entre le personnage du savant et le personnage créé. Et c'est là où je trouve que Mary Shelley est absolument fascinante. Elle, où elle est, non seulement c'est pour moi une romancière romantique, mais en plus c'est le premier auteur de science-fiction littéralement, et avec cette création. Cette double création qui où les deux créations s'opposent, en fait. Et il y a quelque chose de fou en même temps, puisque tout ça va s'anéantir.
On va écouter un deuxième extrait de ce texte-là de Frankenstein, Mary Shelley. On est au chapitre 11 et la créature prend la parole.
Je ne puis que difficilement me rappeler la période première de mon existence. En effet, tous les événements qui s'y rattachent m'apparaissent flous et confus. Une étrange multiplicité de sensations s'empara d'abord de mon être. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, tout me fut révélé simultanément. Et il me fallut longtemps, en vérité, avant d'être à même de faire une distinction entre mes différents sens. Je me souviens vaguement avoir senti une clarté de plus en plus vive faire pression sur mes nerfs optiques, me contraignant à fermer les yeux. L'obscurité que je perçus alors m'effraya. Mais à peine avais-je remarqué le phénomène que la lumière m'éblouit à nouveau. Je me rends compte maintenant que j'avais instinctivement rouvert les yeux. Je me mis à marcher, en descendant, si je me souviens bien. Soudain, un grand changement s'opéra dans mes sensations. Jusque-là, je m'étais senti entouré de corps sombres et opaques, qui étaient pourtant imperceptibles à ma vue et à mon toucher. Mais je découvris tout à coup que j'étais à même de me déplacer librement, sans que surgissent des obstacles qui fussent impossibles à franchir ou à contourner. La lumière me devenait de plus en plus pénible à supporter, et à force de marcher, je commençais à être incommodé par la chaleur. Je me mis à la recherche d'un endroit ombragé, et parvins ainsi à la forêt d'Ingolstadt, où la faim et la soif ne tardèrent pas à me tourmenter, m'arrachant à l'espèce de torpeur dans laquelle j'avais sombré. Je mangeais des baies trouvées sur des buissons, puis, ayant étanché ma soif au ruisseau, je m'étendis de tout mon long et m'endormis. Lorsque je me réveillais, il faisait nuit. Je tremblais de froid et j'avais très peur, chose assez naturelle dans la situation où je me trouvais. Avant de quitter votre appartement, sentant la fraîcheur, je m'étais hâtivement couvert de vêtements qui se trouvaient là, mais ils étaient insuffisants pour me protéger de la rosée nocturne. Je n'étais qu'une pauvre créature désemparée et affreusement misérable. Je ne savais absolument rien et ne comprenais rien à rien. Cédant au chagrin, je m'assis et me mis à pleurer.
Au chapitre 11 de Frankenstein de Mary Shelley, il y a ce grand monologue qui commence où la créature prend la parole. Je ne puis que difficilement me rappeler la période première de mon existence. En écoutant quand même ce chapitre qui va se continuer cette prise de parole, le corps ébloui de lumière, je ne comprends rien à rien. On a vraiment l'impression d'un corps projeté sur Terre sans capacité de distinction qui va acquérir petit à petit. Alors certes, vous le disiez, François Rivière, pour aller vers l'horreur, le devenir une créature assassine, mais au
départ, quand on l'entend parler au tout début, c'est la vulnérabilité extrême, Hélène Frappa, qu'on rencontre.
Oui, c'est-à-dire que là, elle vient de réaliser la première version de E.T., en fait, hein, bien avant Spielberg. C'est vraiment le point de vue, au sens où, pour moi, cette créature du film de Spielberg, c'est le nouveau-né. On se croirait dans un texte de Winnicott, explorant cette catastrophe, pour reprendre le terme, c'est le mot qu'emploie Winnicott à propos du fait de naître.
Venir au monde, ouais.
Venir au monde, la catastrophe.
Et la chute.
Et ouais. Voilà ce que c'est que de voir, pour quelqu'un qui ne voit rien, de regarder. Bon. Moi, ça me fait... Alors, romantique, pourquoi j'aime pas le mot romantique?
Vous y tenez, moi je peux rien faire pour vous pour cette querelle, je suis trop...
Parce que question du cadavre, pour moi, dans la tradition romantique, c'est toujours une cadavérisation de la femme, du corps féminin, la morte amoureuse, enfin, c'est différentes variations autour de cette idée qu'une femme belle est une femme morte, et qu'une femme exaltée est une femme morte. C'est pas une femme qui est morte. Là, non. Et de fait, comme vous le dites très justement, nous sommes à travers le regard. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus futuriste. Et là, je pense à un texte précisément que j'ai traduit il y a longtemps aux éditions Alia, qui est un texte d'un grand écrivain futuriste qui s'appelle Papine et qui s'appelle La vie de personne. Texte complètement inouï, entièrement écrit du point de vue d'un embryon, d'abord d'un embryon qui a aucune envie de naître. Il veut pas du tout sortir et puis à un moment, il naît, catastrophe, et tout est restitué de, et c'est la même, là, c'est, pour moi, c'est peut-être le premier texte écrit de ce point de vue-là, Frankenstein, et c'est ça que ça raconte, et c'est en ça que c'est déchirant, en fait, cet arrachement, cette séparation, cette déréliction, en fait.
Mais quand vous disiez tout à l'heure, François Rivière, cette créature-là qui va ne prendre que le mal, finalement, de l'espèce humaine, qui l'épie pour apprendre, puisque ça va l'emmener vers le meurtre et la destruction, que faut-il lire, peut-être, de la production romanesque de Marie Shelley? C'est-à-dire, en effet, on rencontre la créature, elle est du côté de la vulnérabilité et de l'intouché, peut-être, je ne sais pas si on peut dire du bien, mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle termine dans ce bain de sang et d'assassinat?
Là, j'ai l'impression qu'elle sacrifie à assiéter un peu le fond de commerce romanesque de son père, qui était lui un auteur de romans gothiques. Elle sacrifie littéralement le personnage, elle l'immole pour s'en débarrasser, parce que je crois quand même qu'elle elle a fini par être encombrée elle-même par le personnage, contrairement à ce que j'ai lu quelque part, enfin, ce serait son énième enfant, oui peut-être, mais c'est vraiment... c'est plutôt une créature de cauchemar, en fait.
On va écouter un extrait de votre fiction, Hélène Frappa, où on parle justement de cette litanie de fantômes.
Ô cortège spectral, 11 jours jusqu'à la mort de ma petite Clara. 11 jours pour que la mère vole à la fille sa vie. 11 jours entre la naissance de Mary, la fille, et la mort de Mary, la mère. 11 jours pour que la fille vole à la mère sa vie et son prénom. Durant ces 11 jours, mon père écrit que ma mère supporta ses souffrances avec douceur et patience. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ma mère détestait la douceur. Ma mère était folle d'impatience. Ma mère se moquait des sentiments édifiants. Mary est morte à 38 ans, sans avoir eu le temps de me donner des leçons. Mary est morte à 38 ans, sans avoir eu le temps de me donner un prénom. Mary. Mary. Est-ce mon père qui m'a appelée comme elle, Mary? Mary, Mary? Est-ce ma mère qui a choisi pour sa fille les prénoms des héroïnes de ses romans? Mary, une fiction. Maria ou le malheur d'être une femme. Mary? En mourant, tu m'as changé en personnage. Mary? En mourant, tu m'as transmis le malheur d'être une femme.
Un extrait de cette fiction que vous signez, Hélène Frappa, on entend là la voix d'Agnès Hamburger. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se poser la question des prénoms? C'est toujours intéressant de se poser la question des prénoms, Hélène Frappa, mais notamment dans le roman Frankenstein, puisqu'il y a par exemple William. William étant le nom d'un fils de Mary Shelley, mais aussi le nom de son père. Vous jouez comme ça sur une sorte de cortège de fantômes dans ce texte.
Parce que je pense que c'est un point commun extrêmement... organique et en même temps sacré, je dirais les deux en même temps, que la nomination qui est celle du fait de choisir le prénom d'un enfant à naître, et puis nomination qui est celle pour un écrivain de choisir le prénom de son personnage, et qu'il y a une intimité en fait pour moi entre ces deux entre ces deux choix, et là ça se rejoint parce qu'effectivement elle s'appelle Mary, ça comme Mary une fiction, c'est le titre de d'un des romans de sa mère Maria. Bon, donc il y a quelque chose qui se noue là dans le fait que c'est indissociable en fait, et que pour le coup c'est en ça pour moi que c'est aussi la première écrivaine, c'est que elle est vraiment, il y a une physicalité, hein, pour parler comme Monique Wittig, une physique même de son écriture qui est inaugurale, comme le fait d'inaugurer l'existence d'un être humain en lui donnant un prénom, ou l'existence de cette croyance. En fait, il n'y a pas de croyance du lecteur à un livre sans que ça passe par le fait de croire à un personnage par son prénom.
Et cette créature n'en porte pas.
Absolument.
Du coup, ça...
Elle n'en porte pas. Exactement comme une mère qui a perdu son enfant ne porte pas de nom, est sans nom.
Le Book Club continue.
France Culture. Le Book Club. Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, toutes les semaines, on vous retrouve, Nicole Vulzer. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Vous éclairez pour nous des aspects économiques du monde du livre. Vous revenez du Festival de Cannes pour nous parler des adaptations des livres au cinéma.
Oui, cette année, une nouvelle fois, on a compté une pléiade d'ouvrages adaptés au cinéma en compétition et dans les sélections parallèles du 78e Festival de Cannes. Juste pour vous donner une petite idée. Lumière pâle sur les collines, publié chez Gallimard en 2023, signé par Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature, a été adapté par Kei Ishikawa. Le cinéaste russe Cyril Serebrennikov a quant à lui porté à l'écran La disparition de Joseph Mengele, publié chez Grasset en 2017. Le réalisateur ukrainien Sergei Losnitsa est parti de la nouvelle glaçante Deux procureurs de Grégory Demidov pour réaliser un film éponyme sur l'apogée de la terreur stalinienne. Rien que chez les Français, 8 ouvrages ont été adaptés, comme La petite dernière de Fatima Das, paru chez Noir sur Blanc en 2020, à l'origine du long-métrage d'Afsia Herzi, ou encore Connemara de Nicolas Mathieu, paru chez Actes Sud en 2022, lui aussi adapté à l'écran par Alex Lutz. Pour comprendre cet enjeu, j'ai assisté à Shoot the Book, littéralement filmer le livre, le rendez-vous annuel des éditeurs et des producteurs qui s'est tenu les 16 et 17 mai. Le principe en est simple. 12 ouvrages sont sélectionnés par un jury d'experts internationaux et des producteurs. Ils choisissent un panorama très éclectique où l'on trouve des romans, des biographies, des romans graphiques, des polars, etc. Les cessionnaires de droits des maisons d'édition, ceux qui sont chargés de vendre les livres pour qu'ils soient adaptés au cinéma ou dans les séries, viennent un à un plaider leur cause. Devant un parterre de 462 producteurs inscrits venus de 34 pays différents, ils expliquent en anglais pourquoi le livre qu'ils défendent fera un bon film. Donc il faut nommer les lieux où se passe l'histoire, décrire les personnages principaux, raconter l'intrigue. L'exercice est assez bref, 10 minutes top chrono pour convaincre. La plupart du temps, rien n'est signé à Cannes. Il s'agit pour les éditeurs de rencontrer des producteurs, voir ce qu'il est possible de faire. Le lendemain, des rendez-vous sont pris du matin au soir sur le stand Shoot the Book du marché du festival pour vendre un catalogue bien plus imposant que les seuls 12 ouvrages sélectionnés.
Et alors, c'est quoi l'intérêt pour un producteur d'acheter les droits d'un livre, Nicole ?
Selon une toute récente étude du Centre national du livre, le mariage du livre et du cinéma constitue une valeur sûre aux effets vertueux. Les adaptations d'œuvres littéraires représentent 17% des films ou des fictions audiovisuelles produites et diffusées en France. Si l'on compte en nombre d'entrées en salle, là, c'est formidable, puisque ce type de film tiré d'un livre attire 30% de spectateurs de plus que les autres films. Joli bonus. Pour Philippe Robinet, à la fois patron de Calman Levy et président de la Société civile des éditeurs de langue française, la SELF, celle-là même qui organise Shoot the Book, adapter les livres au cinéma présente un trésor de bienfaits. C'est de l'argent pour les auteurs, pour les éditeurs, pour le cinéma et pour les libraires. En moyenne, Les contrats d'adaptation d'une œuvre au cinéma se monnaient autour de 75 000 euros. Les salles de cinéma y gagnent en nombre d'entrées et les libraires peuvent aussi récupérer des ventes si les éditeurs ressortent les ouvrages adaptés à l'écran, parfois avec une nouvelle couverture. Je vous cite juste Le Comte de Monte Cristo qui a fait un triomphe. Il s'est écoulé à 180 000 exemplaires en 4 mois après la sortie de l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas. L'engouement pour les films issus de romans s'accroît au point de devenir une catégorie à part entière, répertoriée comme telle chez Netflix ou encore dans la liste des films proposés aux passagers sur certains vols long courrier.
Comme les petits éditeurs indépendants, comment est-ce qu'ils se débrouillent, quand ils n'ont pas de cessionnaire de droits? Est-ce qu'ils arrivent à accéder au réseau international des producteurs de cinéma, Nicole?
Alors, trois solutions s'offrent à eux, Marie. Ils peuvent candidater en espérant faire partie des 12 élus, pas seulement à Cannes, puisque la SELF, qui regroupe 397 éditeurs, organise dans l'année 16 autres manifestations, à Taïwan, en Italie, en Espagne, à Londres, et dans d'autres festivals comme Cérimania ou Quai du Polar. Ils peuvent aussi confier la vente de leurs droits à un intermédiaire qui regroupe plusieurs éditeurs, ou encore inscrire gratuitement leurs livres sur la plateforme numérique de l'adaptation créée par la SELF en novembre. Déjà, 4500 ouvrages y figurent. Les producteurs y cherchent par critères, comme par exemple un personnage féminin fort dans un milieu rural.
Est-ce que l'auteur ou l'autrice a son mot à dire dans ces adaptations ?
Oui, absolument. L'auteur ou l'autrice accepte ou non la proposition d'adaptation proposée par l'éditeur et le producteur. Contractuellement, l'auteur devra voir le film fini. Et là, tout se joue dans la subtilité du vocabulaire. Selon que l'écrivain trouve le film formidable, bien, passable ou épouvantable, il demandera une mention différente au générique. Film adapté de, librement adapté de, ou plus rarement, exigé de ne pas être du tout mentionné au générique.
On peut vous réécouter, Nicole, Économie du livre sur franceculture.fr. Et plutôt que de jouer au grand jeu des pages musicales, on y jouera demain. Je voulais qu'on écoute la question que Cyril, notre auditeur, vous adresse à tous les deux à propos de Marie Shelley et Frankenstein.
Bonjour le Book Club, bonjour Hélène Frappa, bonjour François Rivière. Alors, je sais pas vous, moi j'ai découvert Frankenstein à l'adolescence. Alors, Frankenstein, c'est un livre très dense et je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres choses à épuiser. C'est pourquoi j'aimerais demander à nos invités ce que eux-mêmes ont pu y trouver, qu'ils ne s'attendaient pas à y trouver, ou savoir s'ils connaissent d'autres livres et s'ils aiment d'autres livres dont la postérité masque à leurs yeux ce qu'ils estiment en être l'intérêt véritable. Merci pour votre réponse.
Alors, merci beaucoup, Cyril. On va rester sur Frankenstein et Marie Shelley. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça d'étonnant, de tout particulier, François Rivière, que vous avez retenu de votre nouvelle lecture de Marie Shelley pour la publication aux éditions Bouquin? Quelque chose que retient peu la critique, que mentionne peu la postérité?
Moi, je pense qu'elle est indémodable parce que justement, elle est dans une position constante entre deux formes, une forme classique et une forme d'une modernité absolument extraordinaire qui a donné, à travers ce qu'on appelle les littératures d'imaginaire aujourd'hui, des dimensions nouvelles. En fait, elle a ouvert la porte à quelque chose vraiment dans le domaine.
C'est la nouveauté que vous retenez.
Oui, la nouveauté de son œuvre, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, beaucoup plus dans Frankenstein que dans le reste de son œuvre d'ailleurs.
Hélène Frappa, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça pour répondre à Cyril qui serait, une nouveauté de regard porté sur Frankenstein de Marie Shelley?
Je pense que jusqu'à la lecture de Marie Shelley, j'entendais toujours dans le mot écrivaine le mot veine, alors que j'entendais jamais dans le mot écrivain le mot vin, ce qui est une blague.
Drôle.
Et je pense qu'elle m'a donné la force et la joie de m'accoucher aussi comme écrivaine, pas seulement, enfin je le faisais déjà depuis l'enfance, mais de le faire, comment dirais-je, pour de vrai ou pour de faux, enfin de le faire. Voilà, et puis elle donne à tout être humain, et c'est un travail infini, le fait. Enfin, elle nous permet de transformer la mort en vie en permanence. Et voilà.
Merci infiniment, Hélène Frappa et François Rivière, d'avoir été là pour évoquer Frankenstein de Marie Shelley dans cette parution nouvelle aux éditions Bouquin. Je le disais en début d'émission, une nouvelle traduction signée Marie Dariussec paraîtra en septembre aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Et puis on prend d'ores et déjà rendez-vous avec vous, Hélène Frappa. Vous reviendrez dans le Book Club parler votre roman?
Avec plaisir.
Allez. On mettra évidemment tous les éléments bibliographiques ainsi que les liens vers la fiction sur la page du Book Club franceculture.fr. Au son aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Vivien Demeyer. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas poursuivre cette conversation et pourquoi pas la querelle sur le romantisme ou pas de Frankenstein de Marie Shelley via le compte Instagram du Book Club animé par Alexandre Alaïbekovitch.